Salut mes bégés galbés, c'est le prince d'intelligibilité, le philosophe, le seigneur des noumens, l'archiduc du bon sens, le sénéchal des entéléchis. Est-ce que vous connaissez la loi Red Pill, pessimiste de Pareto, version séduction, qui dit que 20% des hommes attirent 80% des femmes et 80% du reste d'entre eux deviennent dingues parce qu'ils se contentent des dindes ectoplasmiques boursouflées à la démarche sismique qu'ils préféreraient voir au cirque tellement leur corpulence est un tucopulence? Et ben, j'ai trouvé un auteur, penseur, un monsieur qui aurait la solution pour passer de ça à ça. Et on va analyser les schémas dans le détail après, restez bien mes BG galbés. Voilà son livre, hein, avec la petite dédicace, comme je l'ai dit, BG, mon petit marque-page Pokémon comme à l'accoutumée. Et donc lui, ce lubrique dandy, ce mondain coquin, et même il a un petit peu mon regard, il a une coupe de cheveux de dueliste Yu-Gi-Oh! Mixé Eric Morillo Prime, et à tout moment, il va sortir son duel disque pour activer 4 magiciennes des ténèbres pour force Ahomé avec moi, là. Bref, on plaisante, mais on présente Arthur Vernon et sa vision d'une société réparée sur les rapports hommes-femmes, et je vais présenter un peu son ouvrage, et je vais le critiquer un petit peu également pour voir ce qu'on peut en dire. Alors globalement, la thèse de l'ouvrage, c'est quoi? C'est que en reconnaissant à la fois les besoins et la misère et la frustration masculine, et en reconnaissant également les revendications féministes plus égalitaires, on peut en quelque sorte faire un alliage et construire une société dans laquelle la circulation libidinale deviendrait fluide, et les envies et les désirs seraient satisfaits. Donc l'ouvrage, il tend vers un idéal érotique, on va dire, dans le cadre d'une réconciliation. Alors l'ouvrage, il se structure en plusieurs parties, mais en gros, au début, la réflexion du mec, de Arthur, il part d'une évidence, c'est que le bonheur, il est accru lorsque les besoins primaires sont comblés. Et il dit bien qu'il n'y a aucun tabou envers la bouffe, voilà, envers la soif, envers le sommeil. Et il dit, pour compléter, et de façon très franche, mais qui pourrait être perçu aujourd'hui comme la réaction d'un Jackie réfractaire aux remontrances progressistes, et les besoins sexuels, en fait, on en pense quoi? Il y a un tabou au niveau des besoins sexuels, alors que ça devrait être quelque chose de normal, dans le discours public, dans le discours étatique même. Il en parlera après. Donc il part d'un état de fait, le réel, il crée des tas de gens qui ont des besoins. S. Et il affirme que les hommes ont plus de besoins que les femmes. Moi, je récapitule sa pensée. Mais lui, c'est sourcé. Voilà, c'est des études, des méta-analyses, etc. Donc il y a plus de besoins chez les hommes. D'ailleurs, il fait un clivage entre le besoin et le désir. Et pour lui, l'addition des deux, ça donne la libido. Je vous explique rapidement, succinctement. Le besoin, c'est une nécessité biologique. Et le désir, c'est plutôt l'élan qui pousse à désirer quelqu'un. Mais le désir, il suppose des influences environnementales multiples et plus variées que le besoin, qui est plus rigide, qui est plus biologique, organique. Donc, comme je le dis, la conjonction des deux, du besoin et du désir, ça crée l'appétit sexuel final et la libido. Et c'est vrai, quelque part, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des besoins, mais qui ont peu de désir finalement, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, traumatiques, etc., ils se referment. Et il y a des gens qui ont une vie S plus dense, mais sans énormes besoins, tout simplement parce qu'il y a un environnement favorable à l'érotisme, hein, je dis érotisme pour pas dire sexualité, pour pas que ça me démonétise. Et donc il y a des gens comme ça, qui ont pas des besoins de ouf, mais qui ont finalement une bonne libido et du désir, et je pense par exemple au volontarisme quasi libertin de certaines meufs dans des environnements favorable à, voilà, l'érotisme, les milieux peut-être hippies, des trucs comme ça, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas bête ce qu'il dit. Et alors il nous dit, initialement, on va dire, les femmes, elles ont un pouvoir immense sur l'homme, en fait, à cause de ses besoins, des besoins de l'homme, et du fait que c'est la femme qui choisit. Et on dit bien, l'homme propose, la femme dispose, donc elle a un grand pouvoir parce que l'homme a des besoins et parce que c'est la femme qui choisit. C'est son corps qui dit, toi, on va coucher ensemble, toi, je vais te faire un enfant, etc. Donc l'homme, il est dans une posture de vulnérabilité originelle vis-à-vis de la femme. Et historiquement, l'avènement des sociétés patriarcales, elle découle d'une volonté de restreindre ce pouvoir des femmes pour optimiser, régulariser l'accès à l'érotisme, à la sexualité. Et c'est ce qu'a toujours fait le patriarcat, qui a toujours discipliné les rapports hommes-femmes, mais de façon finalement, on va dire, abrupte et qu'on pourrait améliorer. C'est pour ça que c'est quand même la vision de Vernon, c'est de sortir du patriarcat. Mais on pourrait l'améliorer en accord avec les revendications de type progressiste et féministe pour inventer un monde meilleur et profitable à tous. C'est le pari qu'il fait. Mais pour ça, Arthur Vernon, il dit qu'il faut quand même prendre en compte cette complexe condition masculine. Et l'impensé du féminisme, selon lui, c'est de nier, ou en tout cas c'est d'éluder la question des besoins et d'en faire un tabou arbitraire, en fait. Et de lui substituer une simple volonté de domination. On entend beaucoup ça dans les discours féministes. Et quasiment, ça en devient un truc abstrait, comme si c'était la part d'ombre métaphysique de l'homme qui voulait dominer pour dominer. Ces discours, ils en viennent quasiment à la décorréler de la question des besoins. À tel point que maintenant, pour prendre un exemple extrême, mais quand on parle de VSS, il y a beaucoup de militants, de femmes, de jeunes, mais même aussi des mecs, qui disent que la cause des VSS, c'est avant tout la volonté de domination, qui utilise la VSS, la sexualité, comme un moyen pour dominer. Comme si la cause, c'était pas le besoin intrinsèque. Sauf que pour Vernon, ça c'est faux. Et moi je pense que c'est très clair et tous les cas de figure nous le démontrent bien. Par exemple, ce qui s'est passé avec Pellico, la pauvre dame qui s'est fait abuser par plein de mecs. Ce genre de trucs, ou les trucs de rue hyper agressifs. Tout ça, c'est de l'opportunisme de rute. Mais les mecs avec Pellico, c'était pas, ils voulaient pas « Ah, enfin, je domine !» Non, c'était des besoins primaires, vulgaires, mais voilà. Mais la VSS, elle découle des besoins, pas d'une volonté de dominer. Donc pour Vernon, pour l'auteur, la domination, c'est juste un moyen en vue de satisfaire des besoins érotiques. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, notamment le discours féministe actuel, qui met en avant, avant tout, la volonté de domination. Pour Vernon, c'est un prétexte pour nier et pour décrédibiliser, pour mettre hors de la prise en compte, enfin du logos, la question du besoin masculin. Mais faut la prendre en compte cette question, sinon on n'arrivera pas à avancer. C'est ça qu'il dit. Et le fait du coup de constamment le nier, le minimiser, et le mettre au second plan, de pas le prendre en compte en vue d'une solution, et ben en fait si on le met sous le tapis, c'est comme dans l'inconscient humain, ça ressort sous forme de névrose sociale. Ça aigrit les hommes, ça les rend contre les femmes, ou en tout cas contre le discours féministe auquel s'identifient quand même beaucoup de femmes, parce qu'ils pensent qu'elles sont partiales, et ça peut être vrai, et tout ça, ça crée du malheur, parce qu'après les femmes elles détestent les hommes, elles normalisent aussi la misandrie, etc. Et en fait les hommes et les femmes ils arrivent plus à se trouver, ils arrivent plus à se mettre d'accord. Bref, il y a une grosse partie du livre qui remet les choses à leur place, voilà, sur le plan biologique, des pulsions, des besoins, etc., pour qu'en fait, on parte sur de bonnes bases et qu'on identifie ce qu'est réellement la condition humaine pour pouvoir comprendre et avancer. Donc, il est assez intéressant et je pense pertinent de ce point de vue-là, le livre. Alors après, l'ouvrage, il est exhaustif. D'ailleurs, je le mets en description, s'il y en a qui voudraient le lire, qui sont curieux et tout. Et donc après, le livre, il propose des solutions. Le livre, il propose des solutions pour à la fois ne plus être dans le Pareto de la misère, ni sans non plus retourner dans une redistribution communiste, peut-être un peu dépassée, peut-être plus faisable maintenant, et peut-être aussi insatisfaisant sur le plan de la sexualité et de l'érotisme. Et donc, il veut retirer ces deux schémas, comme je l'ai dit au début, pour passer à ça. Là, le graphique de ouf, là, tu vois. Et la solution, c'est de repenser, selon lui, toute l'éducation et de toute la vision qu'on a de l'érotisme. Alors, je cite pêle-mêle, mais pour lui, ce serait intéressant d'en parler, de parler d'érotisme librement, de ne pas juger les pratiques, de valoriser les rapports, le fait d'en avoir, de valoriser globalement l'érotisme, d'affirmer que c'est une activité saine, d'utilité publique, de promouvoir l'érotisme récréatif, bien fait. Donc, il y a une éducation au fait, à l'acte érotique, éduquer au plaisir féminin, éduquer les hommes à bien faire l'amour, éduquer les femmes à bien recevoir l'amour, parce que par exemple, il dit l'auteur, dans une vision, on va dire utilitariste, qu'un homme qui fait vivre une calamité avec une femme, c'est-à-dire qu'il s'y prend grave mal, il la dégoûte, il pue, j'en sais rien, tu vois, il manque de tact, il est brusque, et bref, la meuf, elle va par exemple partir sur une mauvaise vision de l'érotisme. Elle va considérer ça comme une mauvaise expérience, elle va se braquer, et en fait elle va pas le renouveler avant par exemple 2 ans, mettons. Et tous les gens avec qui elle aurait pu avoir des rapports sains, corrects, bienveillants, etc. dans ce laps de temps-là, bah ils en bénéficient pas. Et donc en fait le mec qui a mal fait l'amour, c'est la cause du fait qu'il y a une minimisation de la puissance érotique de la femme, du coup qui va se refermer sur elle-même. Au lieu d'avoir de bonnes sensations érotiques, et de donner envie aux gens, enfin là pour le coup du coup aux femmes, de vivre leur érotisme. Donc c'est très utilitariste et c'est assez logique en fait. Alors après ils se trompent ou pas, vous jugerez, mais c'est ça un petit peu sa réflexion. Et en fait globalement, pour résumer, il faut en fait tout faire pour donner envie aux femmes de faire l'amour. C'est un petit peu ça la velléité profonde du livre. Parce qu'on l'a dit, on revient un peu au dogme du début, de l'axiome du début, c'est qu'il y a quand même un gap, il y a une différence entre le besoin des hommes et le besoin des femmes. Si c'est jugé positivement, avec respect, délicatesse, que c'est valorisé, eh bien, pour lui, elles seront amenées d'elles-mêmes à découvrir, à pratiquer, à aimer, à se sentir épanouies dans ces pratiques. Et donc, comme ce sera encouragé, ça impactera leur désir et leur libido, et même avec un besoin initial moindre que celui des hommes, parce que les pratiques récompensées et valorisées socialement, elles sont reproduites. Alors que les conduites diabolisées, jugées problématiques, etc., elles sont inhibées. Voilà. Donc vous comprenez un petit peu sa logique. Et là, quand je dis ça, quand je dis que selon lui, il faut donner envie aux femmes de faire l'amour, bon, on voit quand même que sa pensée, sa philosophie de l'érotisme, elle émane d'un cerveau d'homme, mais c'est pas, malgré tout, c'est pas en inadéquation avec les revendications féministes, qui disent aussi elles-mêmes que les femmes pratiquent moins l'érotisme, la sexualité, parce que c'est énormément diabolisé et jugé, et que ça devrait changer, etc. Que les femmes, elles devraient se réapproprier leur corps, faire ce qu'elles veulent, qu'elles méritent des rapports dans le respect, etc. Donc même si les pensées d'Arthur sont produites par un cerveau masculin, et dans l'intérêt des hommes, les intérêts des hommes et des femmes, dans ce contexte-là, selon lui, ça peut converger. Et même des masculinistes à qui il tire les oreilles dans son ouvrage à quelques reprises, qui, selon lui, il faut éduquer pour que eux aussi, à leur faire comprendre que quand ils nient le patriarcat, c'est aussi qu'ils se mentent à eux-mêmes, et c'est qu'en fait, ils assument pas le fait que le patriarcat a dominé les femmes, mais que eux n'en ont pas bénéficié. En fait, ils assument pas d'être un peu dans la loose, quelque part, mais il faut reprogrammer un petit peu leur esprit, leur schéma de pensée, pour que ça rentre dans l'ordre. Et voilà. Et donc, je disais, il tire un petit peu les oreilles au masculinisme dans son ouvrage, et selon lui, il faut que ces mecs-là, ils comprennent qu'ils se mettent un petit peu des bâtons dans les roues eux-mêmes, en jugeant les femmes, tu sais, selon leur body count et compagnie, parce que la frustration liée à leur misère érotique, elle pourrait se résorber, justement, si ils jugeaient plus les femmes, et qu'ils bénéficiaient des S-A-L-O, des femmes à haut body count, qui critiquent, justement, bien éduquer les hommes, pour qu'ils comprennent que les jugements patriarcaux et réac ne convient plus, et les dessert au lieu de leur fournir le dessert sucré, n'est-ce pas, de la sensualité. Petit jeu de mots, dessert et dessert, même mot avec un sens contradictoire dans une même phrase, je l'ai improvisé, ça s'appelle être un poète. Voilà, je lis Baudelaire en ce moment, donc c'est logique, je peux même le prouver. Et j'adore le poème où il attaque un clochard pour lui redonner une dignité. Baudelaire qui fout un nion à un clochard, c'est une boisson énergisante, les gars. Alors, dans le même ordre d'idées, pour aller plus loin, le livre, il va même jusqu'à faire de l'érotisme une affaire d'État, en proposant des politiques de santé publique, politiques de santé sexuelle, culturelle. Donc l'auteur, il hisse sa pensée pour qu'elle soit, selon lui, idéalement, encadrée par l'État, voilà. L'État promeut une forme de libéralité des mœurs. Alors, dans la suite de l'ouvrage, il va même imaginer un monde, parce qu'il va très loin, un monde où la prostitution pourrait être vu comme non seulement le plus vieux, mais aussi le plus beau métier du monde, à tel point qu'il faudrait quasiment qu'un jour un père puisse trouver ça acceptable, tolérable, même valorisable, et beau et émouvant que sa fille fasse ce métier de prostitution. Parce que l'implication logique du fait de ne plus juger l'érotisme et les rapports, eh ben, ça peut mener au fait que un père dise à sa fille, bah bravo, tu donnes du bonheur aux hommes, etc. Je fais exprès de dire ça à dessein, je sais pas s'il le pense nécessairement, mais en tout cas, il allait au bout des implications logiques de sa, de sa position. Donc c'est un des trucs les plus border qu'il a dit. J'affirme pas qu'il est d'accord forcément avec ça. Mais j'avoue que même si moi, je suis d'accord avec une grande partie de ce qu'il dit dans son ouvrage, et même si je suis ouvert d'esprit, eh ben, je reconnais que face à cette affirmation, il y a quand même une grande partie de ma nature qui s'oppose à cette idée. Et donc justement, je vais éventuellement parler, c'est une bonne introduction, pour parler éventuellement peut-être des limites, des impensés et des critiques que je pourrais formuler à propos de son livre, en fait, voilà, de sa pensée. Bon, déjà, avant tout, je veux le défendre, c'est-à-dire que même si on sent que c'est quand même les idées d'un homme coquin et ça peut faire rigoler, un peu grincer des dents certaines personnes. Donc on voit quand même qu'il parle de tout son logiciel érotique personnel à lui qui retranscrit dans cet ouvrage. Et c'est sûr que ça va pas parler. Enfin, il y a des gens à qui ça va pas parler. C'est clair et net. Il y a des gens qui préfèrent quand même une vision un peu plus traditionnelle des relations hommes-femmes. C'est-à-dire que tu trouves ton plus un, t'es bien avec, tu fais ta vie et tu casses pas les couilles. Mais bon, après, c'est normal que quelqu'un qui a une vie certainement un peu marginale, je pense qu'il connaît un petit peu les milieux libertins, etc. C'est normal qu'on pense à partir de son corps, hein, C.F. Nietzsche et tout. Et d'ailleurs, Freud, il étalait parfois ses obsessions aussi dans ses ouvrages, c'est vrai, hein. Et c'est aussi un reproche qu'on faisait à Freud, donc bon. Mais moi, il y a un truc, c'est que déjà, dans ce genre de pensée, de prise de parole, souvent, les mecs qui vont dire qu'ils sont pour la libéralisation érotique, c'est souvent des mecs qui instinctivement ressentent qu'ils en tirent un bénéfice par rapport à leur situation. C'est-à-dire des mecs qui couchent avec beaucoup de femmes. Ça peut être des acteurs, des gens détendus à succès, je sais pas, Patrick Sébastien. Et il y avait un truc qui m'avait un peu interloqué, c'était le chanteur de Motorhead dans une interview. Alors lui, c'est un mec qui avait des tonnes de groupies. Il était pas beau. Et c'était pas, je pense, un génie de la séduction à la base. Il était pas beau, mais c'était une rockstar. Donc il tapait des tonnes de groupies. Et il disait dans une interview que il trouvait ça normal que la sexualité soit complètement libérée, etc. Pour lui, c'était la norme. Mais en fait, c'est un mec, je pense, qui n'avait pas beaucoup réfléchi à la question. Tu l'aurais mis ouvrier, il n'aurait pas du tout eu ces raisonnements-là. On raisonne vraiment par rapport à sa condition. Donc moi, je suis très humble, même quand moi, j'affirme des trucs, du simili-libertin et tout ça, quand même, je sais raison garder. Et vraiment, le chanteur de Motorhead, je me suis dit, putain, mais lui, il pense sans penser, quoi. C'est-à-dire qu'il affirme des choses, mais il les a pas. Il a pas compris qu'il pensait parce qu'il se tapait des groupies, mais que c'est pas facile pour le mec ouvrier qui a sa tronche, quoi. Et non, le mec ouvrier qui a sa tronche, il préfère une religion qui promet aux gens qu'il faut se marier jusqu'à la mort et être bien. Comme ça, il évite la misère S. Et je le comprends. Voilà, c'est une première entrée dans la critique que je pourrais faire d'Arthur Vernon. C'est une critique déjà qui est un peu méta. Et maintenant, pour ma critique, donc, je vais mettre une phrase qui met en lumière peut-être l'irréalisme qu'on peut soupçonner. Et page 143, par exemple, il dit « Qu'importe le partenaire, pourvu qu'on ait le plaisir. » Qu'importe le partenaire, pourvu qu'on ait le plaisir. Et cette phrase, elle est utopiste. Elle résonne avec « Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. » Mais je pense que cette phrase, elle est utopiste parce que tout simplement, la nature, elle guidera sans doute les meufs, malgré tout, vers les mecs alpha, si elles sont libérées, éduquées, valorisées, etc. Peu importe le flacon, dans l'analogie, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est une phrase de pauvre. C'est une phrase de pauvre. Les riches, ils disent pas ça. Mais les femmes en amour, elles sont jamais pauvres. En vertu de ce que tu as toi-même dit, les femmes ont un pouvoir supérieur à l'homme, de ce niveau-là. Donc si tu les brosses dans le sens du poil et que tu les valorises à fond, elles risquent d'avoir un pouvoir peut-être accru avec le pouvoir qu'elles ont naturellement. Parce que tu mets en place une morale où on doit respecter le choix des femmes, etc. Mais peut-être après leurs caprices et tout. Donc voilà, peut-être que le ruissellement, parce qu'à un moment tu parles du ruissellement, ça marchera peut-être pas, tout simplement parce que les femmes, elles voudront jouir avec les beaux. Et moi, j'ai aussi l'impression que c'est déjà le cas en partie. On est déjà dans une société qui fonctionne déjà telle que tu la décrirais utopiquement. Des femmes qui sont libérées, etc. Les rapports qui sont déreligiosifiés, qui sont détraditionnalisés. Mais justement, dans ces cultures-là, j'ai aussi quand même l'impression que les femmes, elles choisissent des beaux gosses, etc. Et qu'elles sont exigeantes. Et en fait, j'ai quand même l'intuition qu'il y a une volonté masculine inconsciente en toi, Arthur, dans ta théorie, de créer des femmes libidinales, et ça c'est très bien, je le partage en fait, mais qui auraient donc plus d'envie, comme si tu voulais les transformer en petits hommes en fait, en leur donnant, en leur implémentant un logiciel masculin. Un petit peu comme chez les hommes entre eux, les homosexuels, bah les moches, les mecs pas désirables, ils arrivent à trouver parce que l'appétit est fort chez tous les mecs. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout les mêmes enjeux dans les dynamiques homosexuelles, et que les homosexuels qui s'intéressent pas vraiment aux dynamiques hétéro ne peuvent pas vraiment comprendre la misère des mecs, etc. Donc toi, Arthur, je pense que je crois, hein, peut-être que je me trompe, hein, je veux pas affirmer des choses gratuitement, mais t'es un petit peu dans les milieux un peu libertins, t'as ton sweet paradise, bar à fantasmes, etc. Les gens sont assez ouverts, ils sont fins, ils sont compétents érotiquement parlant, ils aiment ça. Donc la norme patriarcale, pour toi, c'est désuet. Les féministes trop agro, elles te cassent les burnes, etc. Bon sens, on est d'accord là-dessus aussi. Mais en fait, la question, c'est est-ce que, même avec une amélioration générale des mentalités, le problème de base, il va pas demeurer, en fait. Initialement, au tout début de l'histoire, les femmes, effectivement, elles ont un pouvoir. Donc les hommes, ils pètent un câble et ils sont violents. Donc pour réguler à la fois la violence masculine brute et à la fois le pouvoir féminin et donc la vulnérabilité de l'homme, il y a le patriarcat avec des règles stables. Mais du coup, toi, tu veux passer au stade supérieur où socialement, on doit mettre en avant les femmes, mettre en avant leurs désirs. Et je pense que ça pourrait être contre-productif dans le sens où tu les mettrais peut-être sur un piédestal. Et quand je vois ton schéma, là, alors regardez bien les trois là. Et regarde le tien à droite, on va le mettre au milieu. Alors attends, le mec qui a 1 sur 20, son trait, il est relié à la meuf qui a 10 sur 20. Le trait du mec qui a 2 sur 20, le trait du 2 sur 20, il est relié à une meuf qui a 14 sur 20. Mais dans quel monde un 2 sur 20, il se tape une 14 sur 20? C'est ça ma question, moi. Le 4 sur 20, il se tape une 16 sur 20. C'est-à-dire, le 2 sur 10, il se tape une 8 sur 10. C'est ça dans ton schéma. Le 2 sur 10 se tape une 8 sur 10. 1, 2, 3, 4, 5. Le 3 sur 10, il se tape une 8,5 sur 10. C'est pour ça que je me dis que ton néographisme de Pareto, qui est censé schématiser une société idéale dans laquelle les rapports sexuels sont renouvelés, j'ai du mal à y croire. J'aimerais bien. Et c'est bien. Et même, mais alors, c'est pas une critique de fond en comble de ta pensée, parce que même si c'est un peu utopiste, c'est pas mal de projeter des pensées qui vont dans ce sens-là. Ça fera sûrement du bien et ça participe à la réflexion générale sur le sujet. Donc c'est très bien. Mais tu vois, si tu réfléchis bien, les traits, le 2 sur 10 qui est relié à la 8 sur 10 ou quoi, c'est compliqué quand même. Et donc moi, si je veux parler clair et net, en fait, on pourrait même avoir peur que cette meilleure acuité du pouvoir érotique qu'ont les femmes, en valorisant, etc., ça les rend encore plus exigeantes, et qu'en fait, il y a des trusts qui se créent avec des minorités de mecs, encore une fois, beaux, charismatiques, virils, argentés, etc., qui auraient des tas de nanas, encore plus, et avec la conséquence consternante que même après tous ces efforts, on peut pas empêcher les meufs, dans une perspective où on les level up, de choisir le mec toujours mieux, dans le délire où elles sont toujours encore un peu hyper gamme. C'est peut-être ça le problème. Parce que la perspective au niveau de la nature, comme tu l'as dit, c'est de transmettre les gènes inconsciemment. Donc, je sais pas si les femmes, elles pourront forcément décorréler le fait qu'elles fassent l'amour à le fait qu'elles fassent l'amour à quelqu'un de bien et qui donne de bons gènes. Et donc, en fait, à mon avis, les brosser dans le sens du poil, ça va les rendre plus exigeantes dans leur hypergamie. Et ça va pas les rendre socialistes. Toi, peut-être tu fais l'erreur de croire que ça va les rendre, elles vont être dans un délire de socialisme érotique, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Après, voilà, les gens, ils vont juger dans la vidéo. Je crois que déjà, Yann Moix, dans On n'est pas couché, ou peut-être plutôt chez Ardisson, il disait déjà que dans les clubs libertins, il y avait toute une hiérarchie implicite, mine de rien. Dans les clubs libertins, où c'est open bar, soi-disant, il y a déjà ça. Donc, ta pensée, je pense que c'est une pensée donc très masculine, et qui a du bon, mais qui manque peut-être un tantinet d'empathie existentielle, de conditions féminines, comme si tu t'étais pas vraiment mis à la place des autres ou à la place des hommes. Parce qu'en fait, il faudrait partager ta pensée avec des hommes qui sont en misère pour voir si du point de vue de leurs intuitions, qui sont pas les mêmes que les nôtres, parce que toi, comme moi, on a eu une vie érotique plutôt fournie, etc. Si tu donnes en fait cet ouvrage à des mecs en misère S, qui ont quand même de la jugeote, de la réflexion, et tu leur demandes leurs intuitions premières sur cet ouvrage. Et à mon avis, ce sera assez révélateur. Faudrait que des mecs en misère S, qui sont des penseurs, qui ont une certaine capacité de raisonnement, te donnent leurs avis sur ton livre. Et aussi, justement, tu parles beaucoup au début de ton ouvrage de la transmission des gènes qui est à la base de la sexualité. Donc les gènes doivent se transmettre ou mourir, et donc ils nous poussent à désirer violemment, à être passionnément, à s'amouracher avec passion de gens, et que tout part de là. Or, du coup, en partant de là, il me semble que tu vas un peu trop vite dans ta vision vers un érotisme récréatif, sans poser les fondements d'une société saine, en fait, qui, selon moi, ne doit pas forcément aller directement vers une sexualité récréative, mais qui doit respecter justement l'exigence des gènes. Toi, tu pars du principe que la vérité des choses, c'est quand même la dictature des gènes, mais tu ne leur donnes jamais vraiment raison, parce que tu dis que c'est en fait comme presque un corps étranger, le gène, qui nous utilise pour survivre, hein, voilà, et tu dis ça en citant Schopenhauer et tout. Je sais plus si tu cites Schopenhauer dans le livre ou dans une interview que j'ai écouté de toi, ou si c'est, enfin, je crois que tu le cites à un moment donné. Mais si on part du principe que les gènes, quasiment, ils nous utilisent, et qui sont en fait le bras armé quasiment matériel de l'entité du vouloir vivre de Schopenhauer, et ben on peut pas vouloir se focaliser uniquement sur la sexualité récréative, parce que mine de rien, dans ce cas-là, du point de vue des gènes qui veulent se reproduire, on pervertit un petit peu la sexualité. Et je pense que si on pervertit la sexualité, alors là, même les religieux, ils pourraient être contents avec moi, mais moi je parle d'un point de vue vraiment biologique, c'est pas de la pure morale, mais si on pervertit cette sexualité, dans tous les cas, on amène plutôt le chaos que l'harmonie et l'équilibre. Et toi, ce que tu vis, c'est l'harmonie. Mais l'harmonie et l'équilibre, elle doit se fonder sur des structures, justement, sur des fondements qui sont stables et qui sont réalistes. Il faut une charpente nécessaire. Justement, comme les gens, s'ils sont directement dans la sexualité récréative, inconsciemment, ils seront toujours à la recherche de quelque chose d'optimal, inconsciemment, hein, pour leur reproduction, donc pour leur descendance. Ces gens-là, ils seront toujours en recherche du meilleur partenaire, donc elles seront toujours hyper et encore plus hyper gamme. Parce que tu dis toi-même, tout simplement, la volonté du gène, et cette volonté-là qui veut se reproduire, elle sera pas respectée. Et je pense que le gène, au fond, inconsciemment, il est connecté avec les volontés les plus inconscientes de l'être humain, et lui, le gène, il sait si on le troll ou pas. Si tu passes ton temps à mettre des podcasts et à t'amuser, le gène, il sait. Il te pressurise et il te met la pression pour que tu cherches quand même le partenaire, etc. Et moi, je pense qu'on pourra pas avoir une société vraiment libérée si on ne met pas en place quelque chose de plus solide et stable. Parce que ce que fait le gène initialement, hein, dans la nature, c'est que le gène, il nous troll pour continuer chez autrui via la matrice de la femme. Mais sauf que nous, maintenant, on a la recul, on a la méta, on connaît la biologie, etc. On connaît le bras armé du vouloir vivre de l'espèce. Et en fait, le gène, on le troll avec nos outillages récréatifs, qui va jusqu'à la vasectomie, justement, par exemple. Mais moi, je pense et je confirme que si on devait faire trop tôt une sexualité récréative, open bar, etc. chez les jeunes, ça créerait un chaos parce que les jeunes et les gens, ils vivraient inconsciemment dans une sexualité excessivement concurrentielle, mais même inconsciemment, je le répète. Le gène, il pense de façon égoïste, il pense de façon efficace. Le gène, c'est un capitaliste. Voilà, c'est comme ça. Donc, il pense avec rudesse. Or, si on garde tous tes conseils, ta pensée, mais qu'on ajoute à ça ma vision néo-traditionnelle avec mon simili-libertinage correspond à ta pensée, valoriser les choses, l'érotisme récréatif, mais mon néo-traditionnalisme, il a bien un intérêt. Et l'intérêt, c'est que les gens, ils construisent avant tout leur cosmos, leur famille, leur stabilité, leur fondation, leur structure existentielle pérenne, et comme ça, même du niveau de leur subconscient, ils sont plus dans l'affolement existentiel de pas pouvoir trouver machin chouette, et ils annihilent et ils dessèchent toutes leurs angoisses à ce sujet, parce qu'ils respectent l'exigence des gènes. Et peut-être même ils apprennent à s'ennuyer aussi. Donc face au risque de Sodome et Gomorrhisification de ta pensée un petit peu chaotique et nihilisant, moi je préconise dans le même ordre d'idée une structure préalable néo-traditionnalisante à laquelle on ajoute après tout ce qu'il y a dans ton livre. Et donc mon néo-traditionnalisme, c'est simple, ce serait d'arranger, de faire en sorte d'arranger, si on veut vraiment créer la société idéale, bah voilà, faut trouver un moyen pour les gens qui, à part ceux qui ont vraiment pas envie, mais qui puissent se reproduire, donc on essaye d'arranger du mieux possible des mariages tôt, mais dans l'intérêt des gens, qu'ils aient leur famille, leur foyer, etc. Et après, on les éduque à tout ton truc et toutes les réflexions assez brillantes que tu as eues. Il y a des phrases, il y a des phases brillantes dans ton livre aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais moi, je pense que ça pourrait bâtir la charpente d'une société solide et pérenne et paisible, et après à laquelle on ajoute, tu l'améliores avec les fioritures délicieuses, qui correspond à l'érotisme dans ma métaphore, ce qui apporte l'ardente sensualité à laquelle effectivement on devrait s'éduquer, comme on s'éduque au bon vin, à la poésie, à la musique, à la littérature, à ces choses-là, et l'érotisme, ça pourrait devenir un art français, oui, un art français, fin, délicat, et ça peut provenir de gens comme toi, cette sensibilité-là, mais je pense qu'il faut quand même ne pas négliger l'aspect traditionnel et à quoi ça sert à la base. Voilà, bon, il y a aussi 2-3 trucs, à un moment tu dis aux féministes qu'il faut qu'elles admettent que les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent aussi du patriarcat, voilà, qu'il n'y a qu'une minorité d'hommes qui sont vraiment dominants et tout, et qu'il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent du patriarcat. Mais ça, c'est déjà un argument que les féministes, elles donnent en disant aux mecs de lutter contre le patriarcat parce que ça avantage les mecs qui sont des winners, qui ont de la chance ou je sais pas quoi, qui sont des héritiers, mais que ça pénalise beaucoup les hommes, ça les frustre, ça les coince, ça... Les féministes ont déjà ce genre de reproche qu'elles font aux hommes, enfin de dire que le patriarcat est nuit aux hommes, elles le disent déjà. Après, il y a des phases que j'ai adorées, et il y a des moments où je me suis tapé des barres, à un moment donné, son personnage, parce que c'est une semi-fiction en fait, son truc, c'est un mec qui a un procès d'un club de féministes, d'une association féministe, parce qu'il relaie un tweet un peu sexiste, tweet un peu à la Virginie Despentes, mais en mode masculin. À un moment, il dit que son personnage, il a l'impression que les féministes intégristes sont souvent des femmes qui n'ont pas de pouvoir réel parce qu'elles sont disgracieuses, grosses ou quoi, ou alors des femmes qui l'ont perdu à cause d'un trauma, d'une agression, des VSS, etc. Ça, c'est pas drôle, effectivement, mais quand il dit des femmes qui sont disgracieuses, c'est pour ça qu'elles sont intégristes, et effectivement, c'est tellement vrai. L'agressivité inhérente à l'extrémisme dans le féminisme, c'est souvent des tentatives de récupérer de la dominance et de la puissance, et c'est dû en fait à des affects personnels, et souvent chez les belles femmes qui sont comme ça, elles ont tout le temps des traumas. Alors là je rigole pas, hein, c'est dur, je juge pas, mais c'est extrêmement extrêmement subjectif, et c'est pour ça que tu prends deux belles femmes qui ont à peu près la même situation socio-économique, etc. Elles ont des avis totalement différents, bah parce que t'en as une, elle a subi des traumas et elle veut revaloriser sa puissance et sa dominance en étant ultra féministe intégriste, parce qu'elle cherche à travers ça, elle est contre la domination, mais en étant extrêmement féministe, elle cherche à dominer à chaque fois qu'elle fait la morale aux gens, etc. Elle cherche à dominer. En fait, on est jamais... les affects personnels, ils sont lovés aux idéologies et aux tempéraments politiques idéologique. Et c'est vrai que dans les plus extrémistes, c'est souvent des femmes qui sont soit pas attirantes, pas du tout féminines ou quoi, ou des femmes très féminines mais qui ont subi des violences malheureusement. Donc voilà, donc son livre, il y a plein de trucs intéressants, Mes BG Galbé, n'hésitez pas à aller le prendre en barre de description. Et Mes BG Galbé, mes partenariats avec YFood se poursuivent, 10% avec le code philosophe-youtube, là c'est de la poudre YFood, vous mélangez ça dans une pinte d'eau et vous avez un bête de repas. Mes BG Galbé, c'est smart, c'est facile à emporter, c'est économique, notamment en plus avec mon code promotionnel. Donc YFood en barre de description, merci à eux pour leur partenariat. Et Mes BG Galbé, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye, et merci Arthur pour l'envoi de ce livre. Merci à toi, j'espère que ma vidéo elle va te plaire, j'espère que tu vas la voir.
Et ciao les BG Galbé, you know what I mean. Achetez mes livres également, hein, et mes livres en description.